Nous allons donc maintenant voir avancer un peu plus dans la question de la fidélité et j'aimerais peut-être faire un petit rappel sur la question de ce que je vous ai dit quand on s'est quitté ce matin, de la fidélité comme rentrer dans une logique de don, une fidélité dynamique et non pas simplement une fidélité statique. Ce n'est pas simplement le fait d'être là, et bon, c'est déjà pas mal, mais au fond, dans la vie qu'on voit la fidélité du Seigneur, c'est au contraire quelque chose qui avance. Maintenant, il y a aussi un discernement à faire dans le don. Et ça rejoint aussi une autre partie que je voudrais traiter avec vous, c'est bien souvent le choix qui se pose à vous, c'est pas tant entre le bien et le mal, si ce n'est entre le bien et le bien. C'est-à-dire que vous aviez aujourd'hui peut-être d'autres propositions, certainement, pour la journée ou pour l'après-midi, que ce soit une visite d'un malade, visite de famille, que sais-je, rendre service à telle personne. Bon, vous aviez aussi d'autres choses, être auprès des vôtres, voilà. Et bien souvent, justement, la fidélité dynamique qui rentre dans une logique de don, on ne voit pas que la fidélité demande aussi un discernement. Et c'est vrai que ce discernement, il n'est pas si évident à faire. Parce que parfois, on ne peut pas garder toutes nos fidélités. Il ne s'agit pas, je ne sais pas quoi, l'engagement scout que j'ai pris quand j'avais 10 ans. Bon, voilà, peut-être aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à autre chose, c'est probable. Ou alors à le renouveler comme chef de corps, voilà, chef de patrouille, pourquoi on m'appelle ça. Mais bon, voilà. Mais c'est intéressant de se dire que. Il y a un discernement, il y a des choses parfois qu'on laisse tomber dans nos fidélités parce que tout simplement le Seigneur nous appelle à autre chose. Et donc c'est important de dire qu'il y a un discernement à faire. On est justement invité à voir, bien sûr il y a les grands choix, j'allais dire, qui marquent les grandes autoroutes dans nos vies. Il y a trois grands choix à faire dans la vie, il n'y en a pas 36, il y en a trois. Premièrement, le choix de Dieu dans sa vie, ça c'est la vie spirituelle. Deuxièmement, l'état de vie, ce qu'on appelle l'état de vie, c'est soit la vie consacrée dans le célibat, soit la vie matrimoniale. Et troisièmement, la vie professionnelle, qui, bon, là c'est, je mets en troisième, mais qui quand même, en fonction des études, de la formation que vous avez, professionnelle que vous avez eue, etc., dirige en grande partie votre vie. Donc c'est quand même des grands choix, d'où l'importance aussi d'aider nos jeunes dans leur cheminement spirituel, leurs orientations, comme ça a été dit pendant le temps de prière. Mais en dehors de ça, il y a plein d'autres choix. Il y a plein, et vous êtes aussi sollicité, forcément. Comme en particulier dans les paroisses, bien, il y a une pauvreté chaque fois accrue, et que, pas que dans les paroisses, dans les mouvements scouts, dans les ceci, dans les cela, dans les AFC, partout, vous demande. Hein, dans les END, ceux qui sont dans les END, ceux qui, bon. Il y a des tas de demandes. Et donc, du coup, c'est intéressant de dire à quoi je vais répondre. Et donc, il y a des fidélités qui doivent parfois changer. Il y a des choses, c'est important que vous fassiez une relecture régulière, soit dans l'accompagnement spirituel, si vous avez un accompagnateur spirituel, soit devant le Seigneur dans la prière. À quoi je m'engage? Par exemple, peut-être vous êtes engagé pour cette année à participer au Alt-SPI. Bon, c'est bien. Mais peut-être l'année prochaine, vous direz, ben non, c'est peut-être pas ça qu'il me faut, ou alors le jeudi me convient pas, ou alors il y a d'autres priorités. Vous voyez, c'est important de voir que là, c'est ça aussi une fidélité dynamique. C'est une fidélité qui sait discerner, et c'est une fidélité qui sait mettre les priorités dans votre vie personnelle. Et donc, on voit qu'il y a des fidélités, par exemple, en amitié, par exemple, qui évoluent, ça c'est évident. Il y a des fidélités, ne serait-ce que par les déménagements, que par les éloignements successifs, etc. Ou tout simplement les choix de vie qui fait qu'on n'a peut-être plus grand-chose à se dire. Ben, il y a des amitiés, même des fidélités en amitié qui n'ont plus à être. Donc il ne faut pas mettre tout sur le même point, je veux dire, dans les termes de... Il y a à vous de faire un discernement, à vous de voir où est la priorité, à vous de voir où le Seigneur vous attend, ça très certainement, et... à découvrir aussi que, au fond, on est à l'image de Dieu, justement, en rentrant dans cette logique de don, de discernement. On n'est pas Dieu, donc on ne peut pas tout choisir. Mais en même temps, on est amené à rentrer dans un discernement par rapport au don lui-même. Je pense aussi à l'infidélité, mais par rapport au don lui-même. Il y a le père Pascalide, je ne sais pas si vous connaissez le père Pascalide, qui est un père de l'Emmanuel, qui, moi j'aime bien, il a parlé, il a écrit un livre, où c'était une conférence, etc. Il parlait, le don, c'est un moteur à trois temps. Le don, c'est un moteur à trois temps. Parce que, si vous voulez, comme Cato, on se fait un peu des nœuds au cerveau, on n'ose pas dire non. Parce que sinon, on est égoïste, etc. Voilà, donc, et puis on est gentil, donc il faut dire oui. Et puis Marie a dit oui. Bon, paf, clac. Une fois que tu as dit ça, paf, tu ne peux plus rien dire, quoi. Donc, voilà. Mais parfois, je me souviens de Monseigneur Jammes, que vous avez peut-être certains qui sont du diocèse ont connu, le prédécesseur de Monseigneur Benoît Gonin, qui disait à ses prêtres, priez Notre-Dame du nom. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire oui à tout aussi. Donc, et le père Pascalide, pour revenir par rapport au don, justement, il dit, il y a le fait de se donner, de s'offrir, etc. Il y a le fait aussi de prendre conscience de ce que j'ai à donner, de se faire ce don à soi-même. Et puis, il y a une période aussi où je suis amené à recevoir. Mais tout ça, c'est dans la fidélité. Et donc, bien souvent, il m'arrive... de donner comme pénitence, par exemple, pour des mères de famille, etc., ben, pénitence, reposez-vous. Ça me fait marrer, hein. Alors, du coup, je sens qu'il y aura du monde à ma porte. la prochaine halte. C'est pas toujours que je donne ça. Mais donc, parce que tout simplement, déjà, vous êtes sollicité mère ou grand-mère, et puis ensuite, bon, avec l'âge aussi, ben voilà, forcément, les forces ne sont plus au rendez-vous, pas autant qu'on le souhaiterait pour certaines d'entre vous. Et puis, aussi, les enfants sont jeunes, ben voilà, ça, les enfants, ça mérite de pomper énormément d'énergie. Voilà, on peut pas être sur tous les fronts. Et je crois que c'est intéressant de se poser la question, quel est ce don à moi-même, au fond, où est-ce que je vais me ressourcer, où est-ce que je vais me reposer, mais non pas dans un... Parce que ce qui se passe, c'est qu'on prend le repos, mais de manière détournée, c'est-à-dire qu'on on fait chauffer la carte bleue, si on a quelque chose sur la carte bleue, mais on va essayer de se donner à soi-même un repos, mais qui ne va pas être équilibré. C'est plutôt les hommes, voilà, on va se prendre un whisky, on va se faire ceci, on va se faire ça, on peut très bien, on essaye de se donner à soi-même, de se refaire ses forces, alors que peut-être il y aurait une manière plus saine de le faire. Et c'est pas évident de savoir ce qui nous repose. Mais je lis tout à fait le repos à la fidélité. Parce que si la fidélité c'est rentrer dans une logique de don, on peut pas être en logique de don à flux tendu en permanence. Ça, c'est juste pas possible. Vous pouvez pas être dans le don. Ça peut même être de l'activisme. Donc, du coup, où est-ce que j'en suis? Justement, je parlais de la dimension contemplative et Noël, Spire veulent rendre ce service aussi, hein, de proposer une dimension contemplative, mais aussi dans un discernement. Où est-ce que je reçois? Où est-ce que, au fond, je refais mes forces, hein, comme mère, comme grand-mère, comme amie, comme etc. Où est-ce que parce que j'ai besoin d'un lieu pour refaire mes forces, un lieu de prière, un lieu de formation, un lieu d'amitié. Maintenant, ce sera un lieu de beauté. Ça peut être artistique, ça peut être voilà. Chacun saura mettre un peu des mots là-dessus. Et du coup, c'est parce que bien souvent, premièrement, on s'accuse de manque de fidélité parce qu'on prend trop d'engagement et forcément on ne peut pas les suivre. Et puis deuxièmement, parce qu'on n'arrive pas à se reposer, à refaire nos forces. Et puis, un autre point qui est intéressant, c'est que la fidélité est liée à la miséricorde. La fidélité est liée à la miséricorde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fidélité sans miséricorde. De fait, la fidélité de Dieu, c'est sa miséricorde. Et la miséricorde de Dieu, c'est sa fidélité, je veux dire. De toute façon, en Dieu, tout est réciproquement. Donc du coup, et je crois que c'est important parce que parfois, justement, nos découragements viennent du fait qu'on n'est pas assez confiant dans la miséricorde. On s'est mis soit la barre trop haut, soit on donne certaines exigences. J'ai parlé du perfectionnisme ce matin, etc. Du coup, quelque part, ben voilà, on voit qu'on n'y arrive pas. Ben parfois, vraiment, on a des égoïsmes aussi. Ça, c'est pas simplement du perfectionnisme, c'est aussi nos égoïsmes qui sont au rendez-vous et qui sont là. Bon, c'est important parce que sinon, on se décourage. Sans la miséricorde, une fidélité sans la miséricorde. Ben, c'est une fidélité qui va perdre son goût, quoi, qui va être, justement, on parlait d'acédie ce matin, de perte de goût, qui est un peu triste, qui va rentrer dans une forme de tristesse, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est que ça... Par définition, je vais dire, on n'est pas à la hauteur. Je veux dire, c'est important de le savoir, c'est-à-dire que je vous ai dit ce matin que le chrétien vit dans cette tension du déjà et du pas encore, mais même pour nous aussi, on n'est pas à la hauteur dans le sens où la vie chrétienne s'est rentrée dans une disproportion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on est appelé, qu'on voit déjà la vie de baptisé, ce que ça veut dire. Hein, vous ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, etc. Donc, on veut la vie de Dieu en nous, on est les temples du Saint-Esprit, mais c'est énorme. Et ce que nous faisons parfois, il y a une énorme distance, il y a une disproportion. Hein, et puis, on pourrait aller, le fait d'être confirmé, par exemple, ben forcément, c'est la vie chrétienne, ça nous emmène de sommet en sommet. Et donc, et nous, parfois on traîne la patte, voire on va dans le sens inverse. Donc du coup, il y a une forme non seulement de tension, mais de disproportion. Mais pour la vivre paisiblement, cette disproportion, dans la vie matrimoniale aussi, le mariage, c'est le signe de l'amour du Christ pour l'Église. Alors là, tout de suite, je veux dire, la barre, elle est au maximum. Et puis bon, quand t'es avec Marcel à côté, c'est pas forcément évident tous les jours. Donc, voilà. Et puis, c'est là où je trouve que la foi est un énorme soutien parce que c'est celle qui nous permet d'être fidèles sans nous décourager parce qu'on compte sur la fidélité qui est la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est capital. Sinon, on est dans la performance. On est dans la performance. On peut même être dans le pharisaïsme. Je fais tout bien. Je ne suis pas, regarde, Seigneur, je ne suis pas comme... moi, je jeûne deux fois la semaine, etc. Je donne le dixième de mes biens. Je ne suis pas comme ce publicain, etc. On voit la parabole de Jésus. Ben voilà, on peut faire tout bien, arriver à tout tenir. Mais au fond, on est dans une forme de non seulement d'activisme, voire d'orgueil, alors que parfois, il ne faut pas forcément tout tenir. Il faut tenir l'essentiel et en même temps, quand on n'y arrive pas, de dire au Seigneur, j'y arrive pas. On a le droit aussi, la fragilité est aussi une option. Je veux dire, et puis on a le droit aussi de se tromper. Donc, je vous dis ça parce que parfois, on a un peu la tendance à, par rapport à ça, à se mettre à faire des menus un peu au cerveau. J'aimerais ensuite, donc c'était un peu pour compléter ce qu'on a dit ce matin, j'aimerais un peu reprendre la question du rapport au temps. Comment est-ce que je vois le temps? Comment est-ce que je vois le temps et comment est-ce que... Et dans ce sens-là, j'aimerais reprendre ça avec vous, avec le passage de l'Évangile, mais que l'on prend assez peu pour parler de la fidélité, qui est le passage où Marthe et Marie sont ensemble à recevoir Jésus. Donc on est en Luc 10, 38 à 42. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenait assise auprès du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Donc nous connaissons bien ce passage-là. Et j'aimerais bien faire le lien avec la fidélité, parce qu'on on voit le côté actif ou contemplatif, etc. Mais au fond, là, on est face à, et puis, non seulement la fidélité, mais aussi le rapport au temps. Marthe et Marie n'ont pas le même rapport au temps. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que Marthe, sa fidélité à elle, c'est de recevoir le Seigneur. C'est vraiment, c'est aussi, c'est certainement son charisme. Il y a des gens qui savent recevoir. Il y a des gens qui aiment recevoir. Il y a des gens qui aiment préparer les choses, les repas, qui aimeraient préparer les fêtes, qui aiment préparer. Voilà. Il y a des personnes. Et Marthe fait partie de ces personnes-là. Elle a un charisme. Elle veut être fidèle à son charisme. Elle veut être fidèle à son Seigneur aussi. Parce que voilà, elle a une grande affection pour Jésus, et donc forcément, elle veut aussi être fidèle à son Seigneur. Et elle est fidèle à son Seigneur de cette manière-là. Ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai été, j'ai fait 4 ans et demi là dans notre communauté d'Alsace, et ce qui m'a beaucoup marqué, un peu la manière d'exercer la religion catholique là-bas, c'est une manière tout à fait différente d'ici. C'est-à-dire, bon, ben, on a le même credo, etc., rassurez-vous qu'il n'y a pas un credo alsacien, là-bas, c'est beaucoup la religion du service, par exemple. Sa religion du service, c'est-à-dire vraiment, c'est pas tant la formation spirituelle, comme on voit ici, qu'il y a une grosse demande de formation, de retraite, etc., etc. Là-bas, il y a peu de demandes, disons, relativement peu, par rapport à ici, mais en revanche, il y a une implication des personnes dans le service auprès de l'Église, le service de la paroisse, le service, à tel point qu'il y a des personnes qui se vexaient parce qu'on ne leur demandait pas de nous rendre service. Donc, j'en vois pas de messages subliminaux, rassurez-vous, mais toujours est-il que c'est intéressant de voir que la manière de rendre, d'aimer le Seigneur pour Marthe, c'est le service. Et le service fait vraiment partie de la foi, je veux dire, de l'Évangile. Ça, c'est très clairement. Je suis le serviteur, etc. Jésus, voilà la dernière scène, le lavement des pieds, c'est le service. Donc, c'est intéressant de voir que sa fidélité, elle exerce sa fidélité, Marthe. Je dis ça aussi pour que vous puissiez peut-être pour vous-même d'abord discerner où est votre charisme et où est votre fidélité, parce que ça va en même temps fidélité et charisme. Mais aussi que vous puissiez aider, en particulier les jeunes, à discerner ça. Parce que du coup, leur fidélité, l'exercice de leur charisme, leur bonheur, au fond, qui est l'accomplissement de soi-même, ce sera aussi la manière dont ils auront d'honorer le Seigneur. Donc ils verront ça comme quelque part dans une unité, vous voyez, c'est pas une juxtaposition, c'est vraiment une unité. Donc c'est intéressant de voir que Marthe, elle exerce son charisme comme ça, elle est fidèle. Marie aussi est fidèle. Marie est fidèle aussi parce que Marie devait être pour le coup plus une contemplative, elle était plus à l'écoute de la parole du Seigneur, elle était voilà, dans des personnes qui savent accueillir, qui savent, bon, aussi, dans une forme d'hospitalité. Elle était aussi fidèle. Parce que bien souvent, alors c'est vrai que la réponse de Jésus, Jésus ne reprend pas Marthe, on verra, dans son charisme et dans sa fidélité, hein, mais il la reprend sur un autre point. Mais chacune des sœurs qui accueille Jésus exerce ce charisme. Mais c'est simplement, il faut d'abord accepter que l'autre n'a pas la même manière d'aimer le Seigneur que moi. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est dans une fille de famille, c'est très important que la manière d'aimer le Seigneur est très différente selon les personnes. Hein, le pape Benoît XVI, ou il était peut-être encore le cardinal Ratzinger, à qui on avait posé la question « Combien y a-t-il de chemins pour aller vers Dieu ?» Et lui de répondre « Autant que de personnes. » Donc c'est très important par rapport au chemin pour aller vers le Seigneur. Chacun a un chemin et il y a un chemin pour chacun. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le relativisme. Hein. Il y a un seul Dieu, il y a une seule foi, un seul baptême. Mais il y a un chemin, une manière d'assimiler ça. Et ça, je crois que c'est intéressant pour qu'on voit Marthe et Marie. Chacune a une manière. Chacune a une grâce. Donc, aidez aussi vos jeunes, en particulier enfants ou petits-enfants, selon le cas, ou neveux, ou etc., etc. Aidez vos jeunes à leur souligner ce qui est leur charisme. Parce que ce sera aussi leur fidélité, ce sera leur bonheur et leur manière d'aimer Dieu. Tout ça, ça se tient. Vous comprenez? Donc je crois que c'est vraiment un, il y a vraiment un travail à faire de justement d'avoir nous-mêmes un regard, nous qui avons un peu plus d'heures de vol que les plus jeunes, et bien du coup de leur dire, ben voilà, il me semble que ton charisme il est là, ta fidélité, voilà. Et du coup ta fidélité, au fond ta fidélité, elle est aussi dans ce que tu aimes faire. Dans ce que tu aimes faire, hein, c'est bon. Parce que certainement Marthe aimait cuisiner, certainement Marie aimait être au pied du Seigneur, écouter sa parole. Sinon, elle l'aurait pas fait. Et de fait, juste pour un petit truc, nos fidélités, source de bonheur, c'est aussi la fidélité nous rend heureux. C'est parce que c'est une fidélité à un charisme, à un don que le Seigneur a déposé en nous. Donc, comment est-ce qu'on repère les charismes? Mais c'est des gens, des choses qui nous rendent heureux et qui rendent les autres heureux. Voilà, ça peut être une définition. De dire, voilà, le charisme, c'est ça. Voilà. Donc, alors, où est la difficulté avec notre amie Marthe? Parce qu'il semblerait que ce soit elle qui... Jésus répond parce que Marthe se plaint. Marthe se plaint, « Cela ne te fait rien, Seigneur. » C'est très fort. Cela ne te fait rien, c'est la même parole, la même expression qui a été employée par les apôtres dans la tempête apaisée. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, la tempête apaisée. Cela ne te fait rien, Seigneur, nous coulons. Cela ne te fait rien. Hein, et que Jésus qui dormait de la... Là, derrière, sur un coussin, etc. Bon, vous rappelez le passage. Cela ne te fait rien. Tu as rien. Voilà. Comme quelque part, la colère de Marthe par rapport à sa manière d'être fidèle et sa manière d'aimer, tout ça c'est pareil. Et sa manière d'aimer et sa manière d'être heureuse. C'est. Elle a une forme de colère parce qu'elle se sent seule. Marthe, certainement, est une affective, et donc, du coup, comme tous ceux qui aiment la cuisine sont assez affectifs, j'ai remarqué ça, mais bon, c'est avec les cuisiniers successifs que nous avons eus, j'ai remarqué, mais bon, mais toujours est-il que c'est intéressant de voir que, au fond, c'est intéressant de voir que Marthe, de quoi elle souffre? Elle souffre du fait de ne pas être, au fond, reconnue dans le don qu'elle a, dans la fidélité qu'elle a. Mais en même temps, où est son péché, d'une certaine manière, c'est qu'elle n'a pas demandé d'aide. À aucun moment, elle a demandé d'aide. Or, on a vu comment la communauté était importante pour lutter contre la cédille, on a vu ça, mais aussi la communauté, c'est-à-dire le lien avec les autres, on appelle ça le lien social aujourd'hui, eh bien, la communauté est importante pour nous soutenir dans nos fidélités. Et donc, aimer, c'est se laisser aider. Se laisser aimer, c'est se laisser aider. Et donc, qu'est-ce qu'elle a, notre amie Marthe? Elle a un problème parce qu'elle ne se laisse pas aider. Elle ne demande pas de l'aide. Elle veut exercer son charisme, sa fidélité, elle a vraiment ce qu'elle... Mais toute seule. Cela ne te fait rien. Seigneur, cela ne te fait rien. Vraiment, c'est vraiment, t'as rien à faire. Elle est dans la colère. Il y a une colère chez Marthe très forte. Et donc, du coup, parce qu'elle est seule. Mais personne ne lui a demandé d'être seule. Personne ne lui a demandé. Mais parfois même, vous voyez, c'est là où le perfectionnisme nous joue des tours. Je ne sais pas si vous connaissez Chiara Lubich. Fondatrice des Focolari, etc., qui, moi j'aime bien une de ses phrases, qui est assez, assez forte, qui dit « Mieux vaut faire quelque chose imparfaitement à deux que parfaitement seul. » Cuisiner, par exemple, avec des petits-enfants, il n'y a rien de plus exaspérant, par exemple. Parce que forcément, d'abord, ils en mettent partout, deuxièmement, ils ne mélangent pas ce qu'il faut mélanger, bon, en même temps, c'est sympa, etc., mais bon, de temps en temps. Mais, à petite dose, mais en même temps, mais justement, c'est tout le principe de l'éducation, c'est qu'on fait avec l'autre, on prend l'enfant par la main, puis petit à petit, on lui montre les choses. Alors, c'est sûr que moi, tout seul, j'irai de hop, 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 j'irai, je ferai ma tarte en deux temps, trois mouvements. Mais voilà, elle a voulu exercer son charisme, sa fidélité, en dehors des autres. Et je pense que c'est ça le péché de Marthe. En dehors, elle n'a pas su demander de l'aide. Elle n'a pas su reconnaître, au fond, et donc, on arrive à un épuisement. Parce que Jésus, quand il débarquait, il débarquait avec déjà les 12 apôtres, premièrement. Ensuite, il débarquait avec les saintes femmes. Bon, l'âne et le bœuf, non, il l'avait laissé déjà. Donc du coup, il l'avait laissé à la case départ, et bien ensuite, il débarquait, un minimum, au bas mot, il était débarqué à 20, quoi. Et puis bien sûr, sans prévenir. Donc du coup, c'est dans le... Il n'y a que chez nous, on s'envoie des faire-part, des trucs comme ça, on se téléphone, mais bon... Du coup, c'est intéressant je dis ça aussi par rapport à vous qui avez un rôle d'éducatrice, chacune à votre place, d'aider à manifester dans l'autre quel est son charisme. Et de l'aider là-dedans. Et là où il trouve du bonheur. C'est pour ça que la fidélité est source de bonheur. Là où il trouve du bonheur, là où il trouve de la joie, eh bien, il y a certainement et que c'est bien, forcément, et qu'il y a une vraie joie, et puis que ça construit, et ça rend les autres heureux aussi, hein. Eh bien, il y a un charisme, il y a un don, il y a une fidélité, il y a un bonheur. Alors que la Miss Marie, si je peux me permettre, Marie, elle était au pied du Seigneur, mais elle écoutait sa parole. Donc, je crois que là aussi, elle a un regard plus contemplatif. Elle était plus dans l'accueil de Jésus en tant que tel. Il y a vraiment cette Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tous des Maris, et personne ne doit être des Martes. Ça veut dire que nous sommes invités à nous... Une chose, c'est être occupé, autre chose, c'est être préoccupé. C'est pas pareil. Le texte dit « Marthe, accaparée par les multiples occupations du service ». Elle avait oublié ce pourquoi elle recevait et elle travaillait. Elle avait oublié le but, l'objectif. Elle avait oublié le Seigneur. Et ça, là, elle était dans ça, l'activisme. On fait les choses, mais on oublie le pourquoi pourquoi des choses que l'on fait. Et donc, c'est intéressant de découvrir que Marthe, au fond, elle est accaparée. C'est ça que lui reproche le Seigneur. Il ne lui reproche pas d'être au service. Le Seigneur lui reproche de se laisser accaparer. Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes. Pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Et donc que dans nos fidélités, nous puissions aussi voir l'unique nécessaire. Une seule est nécessaire, c'est l'unique nécessaire. Et donc peut-être aussi faire le tri. Voilà, je voulais un peu vous... parler de cette question de Marthe et de Marie, parce qu'on le lit pas toujours, en tout cas assez rarement même, on lit ce passage-là à la fidélité. Hein? Un autre point, le combat spirituel pour la fidélité. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des moments, hein, dans nos grandes fidélités et dans nos grands choix, dont je vous ai parlé, les trois grands choix, ou même dans nos petits choix, etc., on sent qu'on se heurte. Justement, parfois on a une logique de don, etc., on n'arrive pas à se reposer, on n'arrive pas à se ressourcer, mais il y a aussi des fois où tout simplement on ne veut pas se donner. Il y a ce qu'on appelle l'égoïsme. Et donc ça, c'est aussi intéressant de dire que la fidélité n'est pas spontanée. C'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose à choisir, à rechoisir régulièrement, à nous remettre dans le cœur du Seigneur pour découvrir justement à quel point, parfois le tentateur est là, pour nous montrer que l'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. C'est ça la tentation. La tentation, c'est « ailleurs, je serai plus heureux ». C'est lié au bonheur, la tentation. Derrière tout péché, il y a un désir de bonheur qui se cache, forcément. Ça, c'est évident. C'est le philosophe Pascal qui disait, même l'homme qui va se pendre cherche son bonheur. Donc derrière tout péché, il y a un désir de bonheur. Donc du coup, c'est intéressant de découvrir pour nous-mêmes que nous rentrons, si nous rentrons dans une fidélité pour le bonheur, nous rentrons dans un combat intérieur contre nous-mêmes. Nous rentrons dans un on a eu beau discerner, on a vu les priorités, on a vu pas, on a tout vu. Maintenant, on s'est dit ça, je vais m'atteler à ça. Et peut-être vous avez pris peut-être au début de carême, on prend souvent des résolutions. Bon. C'est pour ça aussi qu'il y a les confessions, entre autres. C'est pas mal. Donc, voilà, il y a les résolutions, etc. Et on se dit. On voit bien en nous-mêmes un combat. Parce que l'amour nous appelle à telle et telle fidélité, à nous donner, surtout par rapport à nos proches en général, c'est pas les gens qui sont au fin fond de l'Afrique, hein. Là, j'ai pas de problème de fidélité, ni de combat spirituel à me donner à eux, je les rencontre pas. Mais le prochain proche, comme disait Mère Teresa, allez voir le prochain proche. C'est bien, vous venez en Inde, vous venez, vous, occidentaux, en Inde, etc. Mais quid du prochain proche? C'est celui-là, c'est là où le bon Dieu nous attend. Et donc, de voir aussi que rentrer dans le chemin de la fidélité, ce sera rentrer dans un combat intérieur, spirituel, pour ne pas se laisser aller à la tentation, de se pas laisser aller à la paresse, à la comparaison, à la tristesse aussi. La tristesse aussi se fait partie d'un combat spirituel. Parfois, on s'enferme, on se replaît, on se complaît dans nos tristesses, vous voyez, on se complaît là-dedans, etc. Il y a quelque chose de volontaire. Hein. De toute façon, pour confesser quelque chose, il faut que ce soit volontaire. Donc, du coup, voyons aussi, on peut prendre ce temps-là de dire, qu'est-ce qui, dans nos fidélités, a été volontairement décidé, qui nous a emmené loin de ce pourquoi on s'était engagé. Pour finir, j'aimerais parler de quelques mots sur le bonheur et en quoi, au fond, la fidélité est source de bonheur. C'est source de bonheur parce que ça nous construit nous-mêmes. Au début, quand on rentre dans une tradition, la tradition, on doit la porter, donc on rentre dans une démarche de... Mais ensuite, c'est cette tradition-là qui nous porte. Et donc la fidélité, c'est pareil, il y a un côté rugueux au départ, il y a un côté parfois difficile, pour notre nature, mais c'est cette fidélité-là qui va nous porter dans les moins bons moments aussi. Comme une tradition, on rentre dans une... Parce que, et ça je crois aussi, faut aider nos jeunes aussi à rentrer, je pense au niveau de la vie de prière, par exemple dans la prière de l'Église, que ce soit la messe, que ce soit la prière de l'office, qui sont des prières qui c'est vraiment l'expression de la fidélité de l'Église par rapport au Seigneur. Hein. Mais c'est vrai que parfois, on sent bien que... il y a un côté plus rugueux que les groupes de prière, on lève les papates en l'air, on fait des tas de choses, on remercie le Seigneur, il y a des tas de chants qu'on aime bien, qu'on choisit, etc. Là, on rentre dans une liturgie, vous voyez. Et le fait de rentrer dans une liturgie, moi je trouve que ça, par exemple, c'est une manière, c'est une fidélité au Seigneur, mais qui aussi nous unifie, nous construit. Mais ça, on le voit avec le temps. Au fond, comme nos fidélités nous ont construits. Et ce serait bien aussi que vous puissiez peut-être pointer du doigt aussi dans vos vies personnelles comment ma fidélité, ça m'a construit, ça m'a unifié. Et c'est ça le bonheur. C'est une unification intérieure, c'est un apaisement, c'est une construction de soi-même. Alors que, au contraire, attention aux grandes fractures, vous voyez, dans nos vies. Fais attention aux grandes fractures, aux grands coups de barre à droite ou à gauche, etc. Parce qu'on peut déstabiliser nos humanités qui restent des humanités fragiles. Donc, je trouve que la fidélité, elle est source de bonheur parce qu'elle nous construit. Parce que, de même comme la tradition, sans être psychorigide, encore une fois, il y a un discernement à chaque fois à avoir, mais c'est vraiment, c'est très, très positif de ce point de vue-là. Et au début, c'est peut-être un peu rugueux, mais après, par la répétition des actes, que c'est la définition de la vertu, c'est la répétition des actes, par la répétition des actes, ça devient plus facile, ça nous est plus aisé. Ça veut pas dire qu'on ne revient pas après le combat, mais bon. Et c'est vrai que d'une certaine manière, au début, la fidélité, tu la supportes, ensuite, c'est elle qui te porte. Et qui ouvre à une vraie joie. Et interrogeons-nous, justement, dans nos vies, parce qu'on recherche tout le bonheur, tout ce bonheur, on recherche la joie, mais si on n'a pas forcément cette vraie joie dans notre cœur, est-ce que, les explications sont multiples, il n'y en a pas qu'une, mais quelque chose peut venir justement du côté de la fidélité, parce qu'on n'a pas on est trop dans un côté un peu instable dans nos vies, un côté, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Voilà, mesdames, ce que je voulais vous dire en cet après-midi. C'est le moment des questions. Go. Allez, d'abord, derrière, allez-y.
Je pensais que les limites de la fidélité allaient être évoquées. Parce que ne vaut-il pas mieux rompre un engagement que de vivre toute sa vie dans la souffrance, dans le mal-être? Alors, si je prends deux cas, par exemple... La vie conjugale, on peut trouver quelqu'un qui est immature, ou encore la vie religieuse, ça peut être une vocation sociologique.
Oui.
Vous avez dit tout à l'heure, rapidement, on a le droit de se tromper.
Oui.
Alors, est-ce qu'il vaut mieux vivre toute sa vie dans le mal-être ?
Alors, non, vaut mieux être heureux, mais est-ce que la question, quel a été, justement, dans ces grands engagements que vous évoquez, quelle a été la part du discernement ? Bien souvent, ça vient d'une erreur de discernement. Et moi qui fais beaucoup de préparation au mariage, en tout cas j'en fais la grande partie de mon ministère, je suis assez convaincu que dès la préparation au mariage, pas tout évidemment de la vie du couple, mais les immaturités par exemple, c'est évident que ça se repère. Donc la question n'est pas tant parfois l'Église aussi accepte la séparation, c'est-à-dire quand la vie des communes n'est plus possible, elle n'est plus possible. Mais on l'accepte comme un échec. C'est pas en tout cas un objectif. Mais en tout cas ça veut dire plus c'est qu'il y a eu à un moment donné, alors soit l'autre a changé radicalement, etc. n'a pas été fidèle à lui-même et à son engagement, soit il y a eu quelque chose de discernement. Donc je pense que c'est plus un appel à et puis de dire, ça veut dire quoi, intenable, invivable, etc. Est-ce que c'est parce que ça m'appelle, est-ce que c'est, ensuite il faut rentrer dans le cas particulier, on va pas le faire maintenant, mais est-ce que parce que ça m'appelle, une communauté, on va prendre l'exemple d'une vie religieuse. Forcément, vous trouverez des tas de défauts dans toutes les communautés, et dans la nôtre en premier chef. Donc, parce que c'est juste une réalité humaine aussi, la communauté religieuse. Donc, je peux très bien accuser la communauté de ma tristesse, ou accuser la communauté de ma... C'est un passage, il y a des passages aussi à avoir dans ce cas-là. Et donc, alors soit il y a un vrai problème, de manipulation, d'abus de pouvoir, de je sais pas quoi, comme ça a malheureusement existé dans certaines communautés, mais en général, il y a un passage où justement il faut un peu mûrir soi-même. Et c'est ce que disait Jean Vanier dans son livre sur la communauté, qui est vraiment super. Il dit qu'il faut passer de la communauté à moi pour la communauté. Donc, est-ce que c'est... Parce qu'on est un peu comme la tortue qui se trimballe avec sa maison sur son dos. C'est-à-dire, on va réessayer un autre couple. Parfois, c'est très heureux, et souvent, c'est très heureux. On va réessayer une autre communauté. comme on sait comment ça fonctionne, donc on n'a pas forcément une bienveillance aussi importante. Mais en tout cas, ça ne peut pas être l'occasion, même s'il y a un nouveau choix, d'un travail sur soi-même. D'un travail sur soi-même, donc. Mais et surtout, d'un sujet, j'en ai parlé, du discernement dans les engagements, surtout les engagements qui sont aussi, aussi forts. Vous vouliez dire quelque chose, oui,
de...
Ah, la miséricorde. Alors, miséricorde, c'est au fond avoir de, c'est l'avoir du cœur pour la misère. Ça vient de deux mots en latin. Avoir du cœur pour la misère. C'est-à-dire que, c'est-à-dire accepter d'être faillible, accepter de se tromper, accepter d'être vulnérable. Et de pas y arriver quelque part. Et donc, je reconnais quelque part ma misère, même si je suis appelé à une très grande vocation, en même temps, je fais le constat, et je le fais peut-être tous les jours, le constat de mes limites personnelles. La différence entre la grandeur de ma vocation et mes limites personnelles, c'est la miséricorde, qui fait le pont entre les deux, qui fait que je ne vais pas abandonner la grandeur de ma vocation. Je ne vais pas penser comme je vis, hein, d'une certaine manière, ramener la grandeur de ma vocation à ce qui m'est moi accessible et confortable. Non, je me laisserai dépasser par la grandeur de ma vocation, mais en même temps, je serai encore dans une confiance. Je toucherai mes limites. Je ne sais pas, ça me paraît clair ou pas, non? Je garderai la miséricorde, c'est ce qui fait justement le pont entre la beauté de notre vocation, vous êtes le temple du Saint-Esprit, etc. Et puis, la réalité de nos vies, c'est qu'on est souvent égoïste, c'est qu'on est souvent orgueilleux, c'est que, voilà, etc., etc. Et la miséricorde, c'est, il y a un pardon, qui va faire que je vais avancer. Et ça aussi, c'est très important pour nos jeunes, qu'ils sachent que la miséricorde est là, qu'il y a un pardon. Je dis ça par rapport à un monde où il n'y a pas de miséricorde. Vous n'avez pas le droit de vous tromper, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous n'êtes pas au top, attention. Hein. Il y en a pour qui ça va bien, parce qu'ils sont un peu bâtis comme ça, mais il y en a pour qui ça ne va pas du tout, parce qu'ils ne supportent pas ce mode de vie. Quoi. D'autres questions ? Oui.
Je voulais savoir un peu ce que vous entendez par là, parce qu'on est tous, on a tous notre éducation, notre façon de voir. Comment on peut faire pour discerner vraiment ?
Alors, on a tous notre façon de voir, notre discernement, notre éducation, mais dans le discernement, c'est justement ça. Discerner, ça vient aussi, encore une fois, j'aime bien les mots, le riche de l'étymologie, mais discerner. Ça vient de sécarrer, ça veut dire couper. Sécarrer, c'est couper, c'est-à-dire que quelque part, on va faire le tri. Et par exemple, pour les jeunes qui se préparent au mariage, moi, je les invite à regarder dans leurs valises. Ils arrivent chacun avec des valises, avec de l'actif, avec du passif, avec du pour et du contre de leur propre éducation. Ils regardent là-dedans, ils discernent. C'est-à-dire, il y a des choses que je prends pour moi, il y a des choses que je ne prendrai pas pour moi. Par exemple, dans ma famille, on a toujours évité les conflits et on est passé uniquement par le non-dit, par exemple, ça c'est dans ma famille, je dis, non, moi il me semble, je discerne que ça c'est pas pour moi. Moi je veux dire les choses clairement. Vous voyez, c'est ça un discernement. C'est un choix. Ça travaille de l'intelligence qui, et ça ne se fait pas tout seul, mais ça travaille de l'intelligence qui, justement, nous aide à voir où est-ce qu'on peut choisir. D'où, quand je parlais de la discernement par rapport à la fidélité, on ne peut pas assumer toutes les fidélités. Il y en a qu'on ne pourra pas assumer, il y en a qu'on pourra assumer. Et donc, à nous de faire un choix, quoi, un tri. D'autres questions ?
La confiance et le pardon.
Confiance et pardon. Cash, comme ça.
Parce que ça, à la fois, ça va ensemble,
oui,
oui. Et à la fois, on peut pardonner sans restituer les confiances totales.
Alors, ça, on l'a vu la fois précédente, hein, pour la réconciliation, on l'a vu la fois précédente, hein, on a dit, il peut y avoir un pardon, pardon n'est pas réconciliation, hein, c'est ce qu'on a vu la fois précédente. C'est vous tout le nos... Oui, mais la confiance demande que l'amour circule quelque part. Il n'y a pas forcément la confiance à nouveau. On peut pardonner quelqu'un sans pour autant qu'il y ait la confiance à nouveau. Bon, mais ça c'est un autre. C'est pas tellement le sujet de la fidélité, quoi. C'est un autre sujet, quoi. D'autres questions? Oui. Ah, quelle est la vraie joie intérieure? C'est-à-dire que c'est une joie intérieure. La vraie joie, c'est une joie qui dure. Cette joie que personne ne pourra vous enlever, dit Jésus. Hein? Cette joie que personne ne pourra vous enlever. C'est-à-dire que il y a des joies passagères. Je sais pas quoi, vous achetez une voiture, vous achetez un bijou, vous achetez, je sais pas quoi, un éclair au chocolat, bon, j'en sais rien. Chacun, c'est pas le même prix, du reste. Mais du coup, ça peut entraîner, oui, ça a des conséquences sur la joie, peut-être, je sais pas, mais toujours est-il que, il y a une joie, vous ressentez une joie, c'est normal. Il y a un plaisir, il y a une joie à acquérir ça, etc. Mais, c'est plus de l'ordre du plaisir. Mais la joie, la vraie joie, c'est plus, quelque chose qui dure, quelque chose qui est du domaine durable, du domaine de... oui, c'est ça, je ne sais pas comment vous voulez dire. Compléter peut-être, non? Vous voulez dire...
Je trouve que c'est, le plaisir, c'est quelque chose de plus...
Plus fugace, éphémère.
C'est intérieur.
Et puis c'est du durable, quoi. Donc, elle n'est pas toujours au rendez-vous dans nos vies, hein, parce qu'il y a des circonstances qui nous rendent plus ou moins heureux. Mais en tout cas, on est appelé, je veux que... Ma joie soit en vous, ça Jésus est très clair là-dessus, quoi. Oui.
Et ça passe forcément par la fidélité.
Alors, disons, ce ne sera pas le seul ingrédient, mais ça passe. La fidélité va être comme un catalyseur, va rassembler plusieurs choses, hein, si vous voulez. Et donc, du coup, ça va rassembler la question du don. Clairement, la joie passe par le don. Et donc, du coup, passe aussi par la fidélité, parce que c'est cette fidélité dans le don. Et le don est rentré dans une logique de... Et la fidélité, c'est rentré dans une logique de désappropriation, quelque part, hein, et en même temps de... Donc, mais oui, ça... En tout cas, je vois mal une joie sans fidélité. Une joie dans une inconsistance d'engagement, dans un zapping, je crois, au contraire, ça nous fragiliserait. Ça nous fragiliserait. Ça ne nous rendrait pas heureux, quoi. Et d'où l'important de savoir où est-ce qu'on met le curseur aussi, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas se permettre de tout regarder, de tout vivre, de tout, etc. Il y a aussi une sorte d'humilité dans la fidélité qui fait que, voilà, je dis, voilà, c'est là où je peux tracer mon chemin, c'est là où je peux me construire. Nos humanités sont toujours très fragiles, donc faire attention à ne. Que ces joies-là, justement, qui viennent de la fidélité, eh bien nous s'enracinent, quoi. Je crois que c'est ça qui fait qu'on la maturité, c'est que progressivement on s'enracine, on se. Et puis les.
Pas forcément du domaine de la sensibilité.
Non, elle n'est pas forcément sensible, cette joie-là. Elle est plutôt intérieure, elle est plutôt. Alors on peut parfois la ressentir, c'est vrai, ce que vous dites. On peut parfois la ressentir, mais. Parfois, on ne la ressent pas. En tout cas, on est appelé à avoir une joie que personne ne pourra nous enlever. Donc,